Et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
La Côte d'Ivoire a donc connu une nouvelle journée de mutinerie. Hier, des membres des forces spéciales sont de nouveau sortis dans les rues d'Adiaké. Ils ont tiré en l'air, ils ont bloqué l'accès de la ville pour réclamer des primes. En fait, ils demandent les mêmes avantages financiers que ceux accordés le mois dernier aux soldats qui s'étaient révoltés à Boaké dans plusieurs villes du pays. Je vous rappelle qu'après justement cette première vague de mutinerie, le gouvernement a accepté de verser une prime de 12 millions de francs CFA, soit 18 000 euros à 8 500 soldats. Du coup, les militaires et les gendarmes qui n'étaient pas concernés par cet accord ont à leur tour exprimé leur mécontentement, tout comme les pompiers, les gardiens de prison, les douaniers. Les autorités ont donc tenté d'enrayer cette colère en promettant d'améliorer les conditions de vie de toutes les forces de l'ordre. Mais visiblement, on le voit depuis maintenant 48 heures, les forces spéciales, l'unité d'élite de l'armée ivoirienne s'impatiente. Alors que vous inspire la gestion de cette contestation militaire, de cette colère de l'ensemble du corps habillé ivoirien? Dites-nous si le pays a vraiment les moyens de répondre favorablement à toutes ces revendications. 33 9 693 693 70. On va essayer de prendre le maximum d'auditeurs ce matin. Vous êtes nombreux comme à chaque fois sur la Côte d'Ivoire. Beaucoup de réactions également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Daouda nous dit: les premiers mutins, donc ceux du mois dernier, ont été caressés dans le sens du poil. Donc quoi de plus normal que les autres corps de l'armée se révoltent? Tout ça démontre combien l'unité nationale et la cohésion sociale sont menacées en Côte d'Ivoire. Bonjour Denis.
Bonjour.
Vous nous appelez du nord de la Côte d'Ivoire, vous êtes à Korogo, et vous estimez que les revendications de tous les militaires sont légitimes.
Oui, Juan, je trouve que c'est légitime, d'autant plus que, imaginez-vous, Juan, hier, l'ex-ministre du pétrole et de l'énergie, Adama Tunkara, a été nommé comme ministre conseiller auprès du président de la République. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire a assez de moyens pour payer tout le monde. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire est riche. Ouais, tout ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence de la mauvaise distribution de la croissance en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien d'autre que ça. Moi, petit peuple de Côte d'Ivoire, peut-être que les militaires ont encore leurs armes, mais moi qui suis là, qui souffre, qui avance sa femme, qui va au marché demain, elle revient me dire: ah, Denis, c'est cher, tout ce qui est au marché sont chers, mais Juan, qu'est-ce que nous on a comme moyen de revendication?
Ouais.
Qu'est-ce que nous on a comme moyen de revendication? Nous n'avons pas d'armes, mais c'est la majorité qui n'a pas d'armes. Cette majorité silencieuse-là souffre,
ouais,
en
mais,
silence.
Mais Denis, vous dites, moi, Denis, petit peuple, vous avez l'impression que les corps habillés, les militaires, les gendarmes, font partie, eux aussi, du petit peuple?
Oui, mais Juan, ce sont nos enfants, ce sont nos oncles, ce sont nos petits frères, ce sont nos grands frères. Ils font partie de ce petit peuple. Ils revendiquent aujourd'hui tout haut ce que nous pensons tout bas. Parce que véritablement, le petit peuple souffre. Les Ivoiriens souffrent. Le panier de la ménagère est vide. Il n'y a plus rien. Tout est cher, Juan. Mais à partir de ce moment-là, quand nous voyons l'élite politique est en train d'être récompensé à chaque fois. Cette élite-là roule dans les grosses voitures. Cette élite-là, il y a des dépenses faramineuses au niveau de l'État. Mais nous, là, qu'est-ce que nous pensons? Est-ce qu'on peut croire alors que la Côte d'Ivoire est pauvre?
Ouais. Mais en même temps, le fait d'accorder une prime de 18 000 euros à 8 500 soldats, c'est une somme considérable, 18 000 euros. Est-ce que ça n'a pas été une erreur, finalement, que d'accorder une telle somme?
Mais Juan, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la conséquence de la mauvaise distribution de la croissance. Imaginez-vous, Juan, le pouvoir qui est là actuellement, tous les Ivoiriens ont lutté pour que ce pouvoir-là se mette en place. Mais c'était ce peuple-là qui allait se lever contre ces militaires-là, si ce peuple-là n'était pas fâché. Parce que ce peuple-là sent qu'elle n'a absolument rien obtenu depuis l'élection de M. Ouattara. Ouais. C'est le problème qui est là.
Ouais.
Nous souffrons. Et donc, si nous voyons des gens qui revendiquent...
Donc vous souffrez, excusez-moi, Denis, vous souffrez, mais vous trouvez ça normal qu'on donne 18 000 euros, soit 12 millions de francs CFA, à chaque militaire en colère, quand on sait que la majorité des Ivoiriens gagnent 100 000 francs CFA, 150 euros.
Oui, mais Juan, si eux-là, on ne leur donne pas, nous-là, nous n'allons pas avoir. Donc on préfère que eux là aussi, on leur donne, puisque ce sont nos frères, ce sont nos enfants, peut-être qu'en retour, on va sentir que véritablement, eux là, quand on va les payer les 12 millions, le petit commerçant de matelas, le petit commerçant de moto, vous voyez aujourd'hui chez nous, ici à Korogo, il n'y a plus de moto. Parce que les gens ont tout acheté.
Et vous dites, c'est un point très intéressant que vous soulevez. Je me souviens d'avoir entendu il y a quelques jours un reportage de Frédéric Garat, notre correspondant permanent, qui s'était rendu, je crois, à Boaké et qui constatait effectivement qu'après le versement d'une partie de la prime, eh bien les militaires consommaient davantage, achetaient des motos, etc. Donc ça faisait fonctionner l'économie de la ville de Boaké. Denis, en tout cas, merci de nous avoir appelé de Korogo. Mohamed va à peu près dans le même sens que vous. Il nous dit que les autorités disent partout que l'économie se porte très bien, avec un taux de croissance entre 8 et 9%. C'est mieux que dans de nombreux pays développés, mais ces richesses ne profitent pas au peuple. Mamadou, bonjour.
Bonjour,
bonjour à
tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes à Divo, dans le centre de la Côte d'Ivoire, et vous dites-vous que le gouvernement doit maintenant taper du poing sur la table.
C'est cela. Pour moi, M. Ouattara est le chef suprême des armées. Il est temps qu'il porte la tenue que lui confère ce titre-là. Pour moi, cette mutinerie qui vient d'avoir lieu doit être la dernière mutinerie. Il faut que M. Ouattara tape du poing sur la table. Une chose est de se tromper, mais continuer à se tromper, c'est encore plus grave.
Alors ça veut dire, quand vous dites une chose, c'est de se tromper. C'est-à-dire que selon vous, il a commis une erreur en acceptant de verser, dans un premier temps, 12 millions de francs CFA à chacun.
Exactement, en payant 12 millions de francs CFA aux premiers soldats. Et aujourd'hui, il y a les forces spéciales, demain ça va être un autre corps, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, Rouen Goubez. Qu'est-ce que j'ai voulu dire là ? Les civils que nous sommes plus nombreux, nous n'avons pas d'armes pour revendiquer. Et si chaque fois que des hommes en tenue doivent revendiquer, aller demander des sommes faramineuses au gouvernement, on ne s'en sortira pas. Mmh. La croissance dont on parle, elle va chuter tout de suite.
Oui, effectivement, ah oui, parce qu'effectivement, ça risque de refroidir un certain nombre d'investisseurs. D'ailleurs, on se souvient que le président Ouattara, le mois dernier, dénonçait la méthode employée par ses soldats. Elle ternit l'image de notre pays après tous nos efforts de développement économique et de repositionnement diplomatique, disait le président Ouattara. Et c'est vrai qu'en termes d'image pour le pays, ça risque de glacer un peu les investisseurs. Merci à vous, Mamadou. Bonne journée. Donc à Divo, 33 9 693 693 70. Jules sur Facebook considère que la première crise, donc celle du mois dernier, a tellement été mal gérée que les autres corporations saisissent l'opportunité pour exposer leurs doléances, sachant que le gouvernement finira par accéder et accepter leurs revendications. Bamba pense que le président Ouattara n'aurait jamais dû céder aux revendications des mutins de Boaké. Hélas, aujourd'hui, il paye, dit-il, pour son manque de fermeté. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Est-ce que le gouvernement, selon vous, est responsable de cette situation ou au contraire, il fait bien, finalement, d'accepter les revendications des uns et des autres ?
Il est tellement responsable qu'il a l'obligation morale et matérielle de pouvoir faire face aux revendications des mutins, des mutinerés qui vont en cascade. J'avais pour preuve qu'une seule question. Ouattara a toujours dit que lui, il fait ce qu'il dit. Il a fait des promesses. Pour moi, on ne va pas chercher midi à 14h. Il doit pouvoir les tenir sans tergiverser. Il a fait des promesses faramineuses. Et de reconnaître aujourd'hui, dire du moins que ces promesses-là, ces prix, ces 18 000 euros par mutin dont vous parlez, est élevé. Moi, je pense que peut-être c'est méconnaître les réalités de Ouattara. En faisant ces promesses aux gens, moi, je crois qu'il savait pertinemment qu'il avait les moyens de pouvoir les payer. Pendant la campagne électorale de 2010, il a promis des milliards. Il a promis des milliards à chaque région. Je crois qu'il ne l'a pas fait dans le vent. Il savait où il devait prendre les ressources pour pouvoir satisfaire à toutes ses revendications.
Mais Étienne,
il a les moyens.
Oui, enfin, il a les moyens. Vous savez bien ce que c'est qu'une campagne électorale. On promet, puis après on arrive aux affaires et on s'aperçoit de la réalité et de la situation réelle économique du pays. Mais en même temps, comme le disait tout à l'heure à juste titre un auditeur, la croissance, elle est excellente. Elle est entre 8 et 9%. Vous parliez de promesses. Léon sur Facebook nous dit, mais combien de promesses n'ont toujours pas été honorées? La construction de de 5 universités, la couverture maladie universelle, la création de milliers d'emplois, ces mutineries répétitives sont juste le reflet du message que la population veut envoyer au président Alassane Ouattara. Voilà ce que nous dit cet auditeur.
Oui, exactement, exactement. Mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, on nous parle d'une croissance entre 8 et 9 %. Nous, on ne l'aperçoit pas. Nous, on l'aperçoit. Nous voyons des gens rouler avec des carrosses pour ne serait-ce que se moquer des Ivoiriens. Il faudrait qu'on constate. Moi, je regrette dans une telle mesure que des gens revendiquent avec des armes. Les revendications de ces sortes-là, il faut les bannir. Mais il faut tenir compte de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut voir l'origine de toutes ces revendications-là pour en parler. C'est un peu cela. En 2014, nous avons eu déjà une première mutinerie. Elle a été gérée comment? Nous venons d'apprendre par révélation de ces mutins que c'est des primes écomogues. Les primes écomogues ont été promises quand? C'est dans, en 2010 à 2011, lorsqu'ils venaient attaquer le président Gbagbo. Donc effectivement, ils ont les moyens de pouvoir le faire, qu'ils satisfassent ces revendications pour que nous, pauvres citoyens, pauvres petits peuples, nous soyons en paix, parce que chaque fois, on se réveille avec des armes.
Donc vous dites, alors si je comprends bien, hein, je résume en quelques mots, Étienne, votre pensée. Vous dites, nous, petit peuple, nous ne bénéficions pas des fruits de la croissance, mais versons ces fameuses primes aux militaires, comme ça on vivra en paix, même si on n'a pas de quoi remplir le panier de la ménagère. C'est ce que vous dites en substance.
Si le panier de la ménagère n'est pas rempli, et qu'on vit en paix, chacun peut se faire sur soi un puits et puis sortir de l'eau et puis boire. Ouais. Ça, au moins, il a sa sécurité. Il peut marquer à ses
Donc, la priorité pour vous, c'est la sécurité, c'est la paix. Merci, Étienne, d'avoir appelé d'Abidjan. On reste toujours dans la capitale économique. Bonjour, Charlotte.
Bonjour, Monsieur Juan.
Bienvenue. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Étienne à l'instant?
Oui, je partage le point de vue de tous ceux qui sont intervenus avant moi. Cette ultime mutinerie est la suite logique du succès de la mutinerie de Boaké. Et ça montre en même temps la fébrilité de notre gouvernement qui, hélas, encore une fois, je crois, sera contraint de céder parce que face aux armes, s'ils ont pu céder à Boaké, ils vont céder à Diaké. Mais en même temps, il faut que ça cesse parce que les tirs, là, ça favorise pas la stabilité de notre pays. Et surtout, moi, ce que je déplore et ce qui me désole, ça nous confirme en fait que le président Ouattara n'a plus le pouvoir militaire et que le pouvoir militaire se trouve à Boaké, tout simplement. Parce que à la suite de la mutinerie de Boaké, on a vu que le président a réconforté, réinstallé tous les comzones qui avaient été plus ou moins mis en griffe au garage à des postes stratégiques de notre armée. Donc, c'est ceux qui pensent que le président Ouattara doit taper sur la table, je pense qu'ils se leurrent. Il n'a pas de force pour taper sur cette table parce que le pouvoir militaire, il est à Boaké. Oui. Donc, il devra négocier et puis payer les primes des gens pour que nous, les pauvres populations qui souffrent, on puisse avoir la paix et puis vaquer à nos occupations tranquillement.
Bon, enfin, négociations, elles ont lieu. Alors, effectivement, il y a quelques semaines, le président Ouattara avait promis d'améliorer toutes les conditions de vie des forces de l'ordre. Il avait même donné consigne à l'état-major de l'armée pour aller recueillir les doléances des uns et des autres, hein, au sein des différents corps habillés, comme on dit. Donc, il y a des négociations, il y a des discussions, il y a même des discussions en cours depuis hier entre les forces spéciales d'Adiaké qui sont sorties dans la rue et l'état-major des armées, donc le dialogue est là.
Monsieur Juan, vous êtes un grand journaliste, vous avez une très bonne lecture de la situation. Aujourd'hui, l'armée de Côte d'Ivoire est constituée des FDF, c'est-à-dire les anciens soldats pour Gbagbo, et des FAFLI. Et aujourd'hui, quand on regarde l'ossature de l'armée ivoirienne, elle est dirigée à grande majorité par des chefs issus des FAFLI. Donc c'est ces derniers qui dirigent l'armée ivoirienne. Toute mutinerie qui viendra à partir des éléments des FAFN dont sont issus ces éléments certainement de forces spéciales conduiront à une victoire, c'est-à-dire qu'ils auront gain de cause. Peut-être que si ça vient des FDS, comme ce qui s'est passé à Yamoussoukro, les FAFN viendront les mater. D'accord. Mais tant que ça vient des gens qui sont issus des rangs des FAFN, les 17 millions seront payés.
Bon, Charlotte, pensez à tous ceux qui nous écoutent hors de Côte d'Ivoire, qui suivent un peu l'actualité ivoirienne, mais sans avoir tous les détails. Là, vous commencez à citer énormément de corps et d'ex-mouvements, et les gens sont rapidement perdus. En tout cas, merci de nous avoir appelés. On vous souhaite une bonne journée à Abidjan. Jean Hippolyte, vous êtes en région parisienne, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous dénoncez l'irresponsabilité des mutins.
Ben oui, mais à mon avis, ils sont quand même ingrats et un peu irresponsables parce que bon là, on ne peut pas continuer de financer des gens à tout moment parce qu'ils ont simplement des armes à main. Moi, je crois quand même que l'État, le gouvernement doit dialoguer avec eux parce qu'ils sont quand même armés. Mais quand même, il est moment que l'État n'arrive plus à gérer ces mutineries-là. Parce que la croissance de la Côte d'Ivoire était déjà bien partie. L'économie a commencé à se relever. Chaque Ivoirien, tant bien que mal, partait au champ ou en ville pour trouver un peu de quoi manger. Mais avec la mutinerie, maintenant, tout le monde a peur. Les Ivoiriens ont peur. Donc, en ce moment, nous demandons à ce que l'État traite quand même avec eux. Mais il n'est pas question que l'État leur donne de l'argent davantage.
Oui, enfin, il n'est pas question. Mais si vous avez donné à certains membres de l'armée, les autres vont se sentir frustrés s'ils ne reçoivent pas un minimum de primes.
L'autre interlocuteur avait déjà dit que c'est une erreur de la part quand même de l'État d'avoir déjà payé
oui,
les primes.
Mais à partir du moment où cette erreur, voilà, elle est assumée, il va falloir de toutes les façons, puisque c'est une promesse, verser ces 18 000 euros à ces 8 500 soldats, à partir de ce moment-là, il va falloir contenter aussi les autres. Sinon, ils continueront à prendre les armes et à sortir de leur caserne.
La Côte d'Ivoire, c'est pas un grand pays. La Côte d'Ivoire, c'est un tout petit pays, un pays agricole. Et la Côte d'Ivoire n'a pas le moyen vraiment de faire ça. Et l'État ne pouvait pas imaginer qu'après, on va payer les 12 millions au premier, que les autres allaient venir. Donc, c'était une erreur quand même.
Ouais. Enfin, en même temps, l'annonce de cet accord lors des premières mutineries, vous étiez déjà nombreux sur notre antenne en disant « Oulala, attention, les autorités ouvrent la boîte de Pandore en acceptant de verser une telle prime aux militaires mutins ». Merci de nous avoir appelé, Hippolyte Idriss. Vous êtes à Abidjan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne, on vous écoute.
Ouais, ben, moi, je pense comme mes prédécesseurs qu'il faut que le gouvernement soit ferme et tape du poing sur la table. Mais en même temps, il faut reconnaître que le gouvernement Ouattara a fait quand même beaucoup de choses. Fait beaucoup de choses parce que là, et surtout, il faut dire une chose qui est importante, la communication. Le gouvernement ne communique pas. Ne communique pas du tout.
Alors attendez, qui ne communique pas, Idriss? J'ai du mal à vous comprendre, à vous entendre surtout. C'est le réseau téléphone dans mon casque qui n'est pas très bon. Qui ne communique pas?
C'est le gouvernement qui ne communique pas. Oui. Le gouvernement ne communique pas. En ce sens que les 18 000 euros dont vous parlez, c'était des qui étaient prévus dans l'accord politique de Ouagadougou, l'APO, où les 8 500 soldats des KFN ont été intégrés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et il fallait donc les payer. Et à partir de ce moment, ils n'ont pas été payés.
Oui, ben enfin, ils n'ont pas été payés. C'était une promesse, effectivement. Donc, ils s'impatientaient, ils ont pris les armes, ils sont sortis. Mais à partir du moment où les autres s'aperçoivent que ces 8500 soldats ont obtenu un gros chèque, il n'y a pas de raison qu'ils, eux aussi, n'en puissent pas en bénéficier. On a même vu les pompiers, on a vu les douaniers qui ont bloqué, d'ailleurs, pendant plusieurs heures, l'entrée du port d'Abidjan pour réclamer également des primes. Donc la contestation, elle semble-t-il, générale au sein du corps habillé. Un détour rapide sur la page Facebook de l'émission. Il y a Sidi qui nous dit que ce mouvement d'humeur risque de perdurer et même de s'étendre à l'ensemble des couches sociales ivoiriennes. Mahamadi fait allusion à la rencontre qui est prévue entre le gouvernement et les syndicats à la fin de ce mois de février. L'auditeur nous dit « Toute concession faite aux militaires durcira la position des fonctionnaires ». Et oui, les fonctionnaires sont mécontents puisque le pouvoir veut modifier le régime de retraite, etc., etc. C'est un autre sujet, mais si jamais le gouvernement donne raison aux militaires en débloquant de nouvelles sommes et de nouvelles primes, forcément, les syndicalistes et les fonctionnaires voudront eux aussi leur part du gâteau. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochains jours, pourquoi pas demain, dans la Libre Antenne. Nous serons vendredi et vous pourrez, comme tous les vendredis, commenter l'actualité de votre choix. Vous pouvez nous appeler dès maintenant, vous inscrire. Le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70. Et comme il me reste quelques secondes, je vous informe que lundi, ce sera la journée mondiale de la radio et l'occasion pour vous tous de vous exprimer, puisque la radio, c'est vous, vous les auditeurs. Alors dites-nous ce que vous attendez de la radio, ce que représente ce média, ce qu'il incarne finalement dans votre vie quotidienne, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux, votre plus beau souvenir de radio par exemple. Eh bien, appelez-nous, on aura envie de vous entendre. Cette émission spéciale sera donc lundi prochain. Claire Edon, bonjour.
Bonjour Juan.
Priorité santé dans des minutes.